Monsieur Lioger, modification du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Bon, là, on est dans une forme de modification du PLU, puisque je vous rappelle que le plan de sauvegarde du secteur sauvegardé, qui s'appelle maintenant comme cela, a été initié il y a quelques années, a donné lieu à une grande recension systématique de tous les bâtiments, y compris des intérieurs du centre-ville de Metz, que vous l'avez vu, qu'il a été voté. Ensuite, alors c'est un petit peu itératif, c'est un peu long, il repasse devant la commission du secteur sauvegardé, qui a donné un autre avis en demandant un certain nombre de modifications. C'est ces modifications mineures que nous vous proposons là, pour ensuite lancer in fine une enquête publique qui permettra, oui, je sais que c'est assez long, mais là aussi c'est la loi, qui permettra à la fin de revenir devant vous pour voter ce secteur sauvegardé qui s'appliquera comme une règle du PLU, puisqu'il est plus fort d'une certaine manière que le PLU, et ça sera le PLU du centre-ville de Metz. La motion est en conséquence.
Merci. Alors, un certain nombre de personnes sont inscrites. Madame Thomas.
Oui, je vous remercie. Donc, effectivement, nous avons eu une réunion donc, qui a bien expliqué les tenants et les aboutissants d'un PLU, PLH, hein, puisqu'en fait, on se rend compte aussi qu'à Metz Métropole, il y a aussi intérêt à coordonner.
Non, excusez-moi, madame, c'est le PSMV,
choses.
Là. Hein.
Oui.
C'est pas
oui,
le PLU et ni le PSH. Hein,
je suis au 9.4, là, au point 9. Voilà.
Donc, on c'est est au bien point ça. 9, donc, là.
Oui, oui, bah, c'est bien
d'accord.
Ce que je dis. Voilà, donc mise en coordination par rapport aussi à des choses plus globales, puisque nous faisons quand même partie d'un groupement de communes. Donc on pense que ce qui s'appliquera à Metz s'appliquera fatalement dans d'autres communes, non?
Non.
Voilà, donc l'idée...
Non, c'est pour un secteur sauvegardé. Il n'y a que nous qui en
avons
un.
L'idée de l'architecte des bâtiments de France, en fait de l'ABF, c'est quand même de pouvoir agir aussi de façon unifiée. Pour qu'il y ait quand même une logique et quelque part. En tout cas, on nous rappelle que c'est avant tout pour donner un cadre. Et je pense qu'effectivement, si on en est encore à remettre en question le fait qu'un plan local d'urbanisme doit être modifié en fonction de la commande, c'est-à-dire on vous commande tel bâtiment et après on va modifier pour qu'on puisse accepter et transgresser certaines réglementations. Je pense au contraire que ça doit être un cadre qui est pérenne pour un certain nombre d'années et auquel il faut se tenir. Parce que quand on constate qu'on est capable aussi de changer la destination d'une zone et d'être complètement en contradiction avec un cadre de définir une zone, si on prend l'exemple du point 8, hein, quand on est dans une zone avec des écoles, eh bien, on change. Alors, on espère en tout cas que les modifications sont des choses qui permettent vraiment de donner un cadre qui s'applique aussi bien aux privés qu'aux collectivités. Hein, parce que je rappelle qu'en secteur sauvegardé, quand on veut faire une modification, qu'on ait un privé sur une façade, sur une lucarne, on a énormément de mal d'avoir des autorisations. Et quand on a des transformations majeures par rapport à des monuments classés, là, par contre, on a l'impression que c'est très facile de modifier comme on veut. Alors je dis bien comme on veut, entre guillemets, hein, parce qu'on a l'impression, quand on est en privé, eh bien, que c'est plus facile d'avoir des autorisations globales que d'avoir des autorisations qui sont parfois des améliorations à l'habitation et des aménagements qui sont nécessaires. Je vous remercie.
Merci, monsieur. Oui, merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, je vous permettrai sur ce point de faire un léger cavalier, puisqu'il s'agit malgré tout d'une sauvegarde de patrimoine, même si nous ne sommes pas dans l'ancien secteur sauvegardé en tant que tel, pour vous questionner sur une interrogation qu'une association de défense du patrimoine messin se pose concernant une maison au 36 rue de Culleux, et pour laquelle un permis de démolition a été déposé et sur lequel vous avez possibilité de revenir, si mes informations sont bonnes, jusqu'à la mi-juillet à peu près. Donc la question est claire, précise, j'espère une réponse précise. Est-ce que oui ou non, vous allez retirer ce permis de démolir et ainsi, faire écho aux préoccupations des associations de défense du patrimoine à Metz?
Le maire, je ne prendrai pas 10 minutes, mais juste pour donner, si le bilan est positif du secteur sauvegardé, il y a quand même le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que ça augmente très sensiblement le coût de réhabilitation. Et oui, 30% le coût de la réhabilitation, ce qui fait que on se retrouve, par exemple, dans le quartier Outre-Seille, à avoir beaucoup de personnes qui ne rénovent pas et avoir des marchands de sommeil parce que le coût de réhabilitation est très important. Et après, on se retrouve à voir des promoteurs qui préfèrent faire du neuf avec des conditions, etc. Donc, il y a quand même à se dire, oui, c'est merveilleux parce que on rêve tous d'être touriste et visiter Metz. Hein, quand on est touriste, on trouve ça beau. Mais pour y vivre, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, l'extension à l'infini du secteur sauvegardé, faut chose mesurée, parce qu'après, ça renchérit tellement le coût. Et des fois, les agents des bâtiments de France sont un tout petit peu excessifs dans leurs demandes. Et si c'était leur argent, on peut se demander s'ils feraient les mêmes demandes. Je vous remercie.
Oui, monsieur le maire, évidemment... D'accord sur ce qui concerne le secteur sauvegardé, et je crois que plus vite il rentrera en application, mieux ça sera, évidemment, mais je sais très bien que tout ça se met toujours en place avec une certaine lenteur. Je voudrais profiter de ce point, justement, parce qu'on y parle du patrimoine remarquable de la ville, en quelque sorte, pour revenir sur certaines questions qui me touchent particulièrement et qui, excusez-moi, sont souvent des détails. Donc je comprends que dans une vision un peu stratosphérique de l'avenir de Metz, ça puisse de temps en temps échapper, mais je crois que, comme on le sait, le diable est dedans. Alors, sur certains détails, je voudrais intervenir. Premièrement, je voudrais qu'on insiste que la beauté d'une ville, elle est globale. Et quand on met en place des conteneurs, il faut aussi... Ah ben oui, mais parce que c'est important. Il faut autant que faire se peut, cela se fasse avec une certaine délicatesse. Alors, je vais citer un bon exemple. Celui qui est en bas de la cathédrale, relativement caché, qui est en bas des marches de la place Saint-Étienne, je dis c'est une réussite, incontestablement. Mais on aimerait qu'il en soit de même à proximité, par exemple, de la porte des Allemands, hein, où pour l'instant, je sais bien qu'on est dans une période d'essai, je capte tout ça, mais je dis pour l'avenir, il faut quand même faire très attention à ce que l'on n'ait pas, qu'on ne transforme pas la ville en ville poubelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les sacs qui n'étaient pas beaux, on le reconnaît, qui n'étaient pas sains, on le reconnaît aussi, mais que il vaut mieux avoir de l'enfouissement, surtout dans le secteur historique. Et je sais que c'est cher, mais il faut payer sans doute ce prix. Ça, c'est un premier détail. Le deuxième détail, monsieur le maire, vous avez pris une décision que, pour ma part, je n'ai pas, à titre personnel, approuvée, mais je crois que d'autres aussi, qui est ce que j'appellerais la demi-mesure en ce qui concerne le stationnement autour de la cathédrale et des places. Bon, je dois dire, voir inscrit dans le paysage aujourd'hui qu'on revient à mettre du stationnement rue d'Estrée me gêne beaucoup. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait avoir des photos de la cathédrale et de la vue d'Estrée sans voiture et qu'aujourd'hui, maintenant, on a des voitures. Et non seulement on a des voitures, mais vous nous aviez dit c'est une période d'essai. On avait bien vu dans le rapport qu'il n'en était rien, qu'il y aurait des modifications, mais on vient d'inscrire dans la réfection qui vient d'être faite de la rue d'Estrée un stationnement permanent rue d'Estrée. Je le regrette, évidemment. Enfin, vous avez pris la décision de supprimer le stationnement place du marché. Ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Mais alors, comment ça se fait que depuis qu'il est rentré en application, on a toujours les bandes blanches de l'ancien stationnement ? Vous voyez ? Ça devrait disparaître, ça. C'est quand même c'est laid. Quand on a une belle place minérale, eh bien, on a plus de bandes blanches pour le stationnement. Vous me permettrez de revenir sur le Metz by Night, hein, qui n'est toujours pas au niveau. La porte serpenoise, alors qu'on a changé les lumières pour y mettre des LED, est toujours éteinte depuis avant Noël. On est aujourd'hui dans les fêtes Constellation. Permettez-moi de dire que ça manque quand même un peu d'étoiles, même s'il y en a au sol, que d'avoir ces trous noirs. Et les vitraux de la cathédrale qui étaient éclairés auparavant de l'intérieur ne le sont toujours pas. Enfin, il y a un sujet qui m'a particulièrement agacé, pour lequel vous n'êtes pas en cause à titre primaire, si j'ose dire, mais j'aimerais bien savoir qui a permis l'installation d'une sculpture qui n'est absolument pas au niveau, je dirais, du complexe Arsenal, Palais du Gouverneur, etc. Nous avons là une trilogie d'artistes sculpteurs de réputation mondiale. Nous avions Poncet, qui est derrière l'esplanade. Nous avons le carrosse de Veillant, qui est de réputation internationale. Et nous avons enfin Bernard Venet, je sais bien que René Darbois n'aimait pas, mais Bernard Venet, qui est un sculpteur de réputation internationale. Et on a maintenant, au milieu de cette trilogie, un auteur que je ne citerai pas, mais on nous a flanqué ça à un endroit indéterminé. J'ai demandé qui, à la direction de la culture, avait pu autoriser une aberration pareille sur un socle immonde, et pire encore, même la plaque qui est mise est de très mauvais goût, si vous me permettez l'expression. Enfin, je sais bien qu'on est sur un emplacement normalement militaire, mais autant nous avions demandé l'autorisation au gouverneur de mettre les Bernard Venet, vous savez, ces grands arcs, autant je m'interroge de savoir si le gouverneur vous a demandé votre avis. Mais s'il ne vous a pas demandé votre avis, je trouve que c'est grave, et je dis qu'il a fait une erreur. Je sais bien que c'est une sculpture qui lui a été donnée, mais moi, si on me donne des choses, je les mets dans mon jardin, je ne les mets pas sur l'espace public. Alors, là, je suis extrêmement fâché, au point où j'essaye de ralentir les ardeurs de certains amateurs d'art de Metz qui me disent qu'il faut enlever les Bernard Venet de là où ils sont, parce que c'est insupportable. Alors, je voulais vous en faire part, parce que tout ça contribue quand même à la beauté du patrimoine, et il faut quand même un équilibre dans une ville. Je sais que la direction de la culture n'a pas été consultée, alors quel est le service technique qui a donné son feu vert ?
Mettre la sono, c'est un sombre de sujet, je peux vous apporter quelques précisions. D'abord, avec Madame Thomas, c'est clair, hein, le PSMV, c'est le secteur sauvegardé. Donc c'est un secteur qui est uniquement à Metz, il ne va même pas dans Montigny sur la partie qui aurait pu être incluse, puisque la ville de Montigny n'a pas souhaité en faire partie. Ça entraîne, je le dis à monsieur Lebeau, ça entraîne des contraintes supplémentaires, bien sûr, puisque nous acceptons de nous donner des contraintes supplémentaires pour préserver ce secteur sauvegardé. Je l'ai dit dès le départ, à partir du moment où nous sommes fiers de notre ville, que nous voulons la porter, nous en acceptons les contraintes. Il y a quelques avantages financiers quand même. Ça s'appelle la loi Malraux. Nous avons plusieurs beaux projets qui sont en cours, y compris d'ailleurs des endroits qui étaient dans une situation désespérée depuis des décennies et qui sont reprises par des promoteurs qui, compte tenu des avantages de la loi Malraux, acceptent de s'investir sur des espaces extrêmement compliqués. J'en connais un particulièrement entre l'impasse Taison et la Fournirue. C'est un ensemble avec une vingtaine de logements tout à fait extraordinaires que je vais voir régulièrement, qui est en train de trouver son aboutissement et qui est directement une conséquence du secteur sauvegardé. Donc le secteur sauvegardé peut nous apporter beaucoup. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que je considère, moi, que c'est indispensable pour une ville comme Metz d'avoir un secteur sauvegardé. J'ai proposé un secteur sauvegardé extrêmement étendu. Hein. D'ailleurs, Madame Genet, par exemple, ancienne adjointe au maire, a déménagé dans un immeuble de la place Mondon qui a été restauré dans le cadre d'une opération Malraux. Elle en est très contente, il y en a d'autres. Hein. J'assume complètement cette décision qui nous donne des contraintes collectives, mais qui en fait est au bénéfice de la beauté globale de la ville. S'agissant de la maison de Queuleu, je viens d'avoir quelques informations. Je vous les donne. Le porteur du projet, a rencontré M. Butner. M. Butner, qui est le président de sites et monuments de Moselle. Et par ailleurs, un ami personnel. Ils se sont rencontrés dans le bureau de M. Fayol. À l'issue de cette rencontre, M. Butner a considéré, ces sites et monuments de Moselle, hein, a considéré que le bâtiment n'était finalement pas tant d'intérêt que cela, et que par ailleurs, le projet porté par le promoteur était extrêmement intéressant. Voilà ce que je peux vous donner. C'est-à-dire que l'origine de la demande, effectivement, c'est une maison, on ne voyait pas qu'elle était à pan de bois. Elle était en bois parce que l'autorité militaire exigeait qu'à un certain niveau de distance des remparts, les maisons soient en bois. Mais en aucun cas, elle avait un caractère du type de celle qu'on peut voir, par exemple, route de Borny ou même route de Voipy, où on a des maisons tout à fait exceptionnelles, hein, et donc, ou à Saint-Julien, c'était signalé. Donc, voilà où ça en est. Donc, n'en faisons pas trop, s'il vous plaît. hein, puisque M. Claude Butner lui-même, voilà. Et, alors, s'agissant maintenant des... Ah non, non, mais il ne fait pas autorité, mais c'est quand même lui qui est, par, c'est par lui que le problème est arrivé, parce que sinon, on n'aurait rien vu du tout, parce qu'effectivement, voilà. Alors maintenant, s'agissant des points d'apport volontaires, des conteneurs, etc. Monsieur Thiel, vous avez raison, je suis extrêmement attentif, et je travaille avec M. Lecoq, je travaille personnellement, je m'y colle moi-même. J'ai été hier faire une réunion de travail dans le bureau de Jean-Luc Baule. L'essentiel des problèmes de la collecte des ordures ménagères sont à Metz, au centre. Pour toute l'agglo. Parce que c'est très facile de collecter les ordures ménagères partout où il y a des lotissements. Et nous avons des problèmes spécifiques. Et ces problèmes spécifiques, nous allons les traiter et nous les traitons. Et c'est du petit point. C'est du petit point, c'est de la dentelle. Il n'y a pas deux sujets particuliers. Il n'y a pas deux rues particulières. Il n'y a pas deux immeubles identiques. Et on va le faire tranquillement, en appliquant. On a eu des bons résultats. Par exemple, à Outreseil, au début, ça a été les hurlements. Je viens de faire une tournée avec les responsables du quartier. Les responsables du quartier, le comité de quartier, les gens qui habitent là. Et je peux vous dire que maintenant, ils expriment une satisfaction à la façon dont les choses se sont passées. Alors, je me permets... J'ai passé 2h30 à Outreseil avec le comité de quartier, le président des commerçants... et le président de l'association Oui Vivre en Outreseil. Voilà, on ne peut pas faire plus. Permettez-moi de continuer à répondre, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, de continuer, me permettre de laisser de répondre. Donc, j'attache la grande, une plus grande importance à ce qu'on soigne tous ces problèmes-là. Il y a des endroits où on a mis des conteneurs, on s'aperçoit qu'il y en a trop, alors on les supprime, on les déplace. Après ça, on commence à mettre autour des claustras. C'est le cas, par exemple, rue Haute-Seille, où je préfère, moi, qu'il y en ait. Alors que ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais quand les boîtes à poubelles sont jaunes, hein, si on les cache un peu, ce n'est pas trop mal. Hein. Donc, on a vu comment c'était à Montigny. On va faire un travail de détail. Certains sont allés à Bordeaux, aux Pays-Bas, voir comment ça se passait. On s'aperçoit qu'il y a des problèmes partout, qui sont redoutables. Il y a des endroits où, au lieu de faire des points d'apport volontaires, ce sont des magasins inutilisés qui sont transformés en stock de conteneurs, avec des bips pour ouvrir pour les gens du quartier. Il y a tout un tas de solutions. On va y travailler. On était voir Bordeaux. Enfin, moi, je n'y étais pas, mais il y a des gens comme Jean-Louis Lecoq qui est allé. Et donc, on va avancer là-dessus. Et ce sera un... Alors, s'agissant, M. Thiel, j'avance parce que vos demandes sont toujours très, très précises. Le stationnement, on a une demande des commerçants pour avoir un stationnement avec rotation rapide à proximité de l'hypercentre. À rotation rapide. Et figurez-vous, excusez-moi de vous le dire, mais ça marche. Rester une heure quelque part, ça coûte très cher à la collectivité. Nous sommes en train de le payer dans le budget, vous l'avez entendu, mais ça fonctionne. Et on va faire respecter cette heure, parce que sinon, après ça, il y aura une sanction financière, parce que quelqu'un qui veut s'installer longtemps, il va dans un pays république, et puis il passe trois heures, il passe la journée à Metz, mais il ne reste pas en hypercentre. Et on va aller dans ce sens-là, avec une quarantaine de places, qui sont des places à rotation rapide. Il se trouve que j'observe ce qui se passe. Il se trouve que j'ai bon espoir qu'il y ait en quelque sorte tout le temps des places libres. Parce qu'en fait, c'est ça. Les commerçants ne souhaitent pas avoir des places occupées, ils veulent avoir des places vides. Et donc, les commerçants, ils ont un avis à donner. Vous en avez un aussi, c'est les marques par terre, par exemple. Alors, on ne va pas les supprimer tout de suite, parce que peut-être que dans certaines circonstances, on sera amené à utiliser temporairement cette place. Mais à terme, je suis d'accord avec vous, j'avais remarqué aussi. Hein, à partir du moment où on libère un lieu et on le fait vivre, et il faut trouver la cadence, j'ai eu l'occasion de discuter avec les commerçants qui sont impliqués, ils sont tout à fait partants. Hein, et maintenant, il y a une espèce de consensus sur la mesure qui a été prise de libérer une des places. Je suis d'accord avec vous que si tout était parti, c'était mieux. Mais permettez-moi d'envisager un certain nombre de mandats et à chaque jour suffit sa peine. Et que la cathédrale, peut-être un jour, monsieur Thiel, peut-être un jour, la verrons-nous débarrassée de toute voiture. Peut-être. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, je pense qu'effectivement, dans l'absolu, quand on va mettre, vous savez, la grande roue d'un côté, on dit, bah, où sont les voitures? Vous mettez une grande roue, mais ça ne va pas. Il y avait des voitures avant. Eh bien, les gens sont contents. Parce que la grande roue, c'est magnifique. Et puis, les voitures ne sont plus là. Et puis, de l'autre côté, on va mettre la patinoire. Et on va mettre la patinoire de l'autre côté. Il n'y aura pas de voiture à la place de la patinoire. Il y aura la patinoire.
Là, les parkings ne sont pas trop chers.
Et puis, que voulez-vous que je vous dise? Ben, c'est comme ça. On va voir. et puis il faut tâter le terrain. Voilà, on est en train de régler une affaire qui a commencé il y a 40 ans. Voilà, petit à petit. Alors maintenant, que la rue Serpenois soit la porte Serpenois soit pas éclairée, on va regarder. Hein, c'est noté et la directrice générale des services a entendu comme moi. Voilà ce que je pouvais dire, mais ce PSMV, c'est quelque chose de bien. Il y aura encore des étapes, on va revenir vous voir. Parce que ce n'est pas fini, c'est une étape. Après ça, il y aura une enquête publique. Les gens auront le droit de donner leur avis comme ils l'ont donné pour la mosquée. Il y aura peut-être des gens qui diront, écoutez, c'est trop cher, je ne peux pas faire de Vélux comme je veux, je ne peux pas descendre la cheminée qui est dans mon salon avec une glace dessus, ça m'embête. Tout ça, on aura peut-être ces choses-là, mais c'est comme ça qu'on va gérer ce PSMV. Voilà, je mets ça aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Expliquez votre vote, madame, s'il vous plaît.
Oui, sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Metz, qui est plus beau à entendre que PSMV, qui peut ne pas y être favorable, bien sûr. Quel dommage que ça n'ait pas été appliqué à cette petite maison de la rue Haute-Seille qui a été démolie au profit d'un bâtiment noir qui choque vraiment et qui rompt cette harmonie des couleurs que le nouvel ABF en arrivant avait remarqué. Cela dit, je voulais donc souligner aussi un point qui a été abordé en commission des finances, urbanisme, où je dois noter qu'on avait une grande liberté de ton et de discussion. Et en cela, je ne sais pas qui remplacera M. Lioger, mais c'était une commission où j'avais beaucoup d'intérêt à aller. Donc, oui, c'est dit. Non, il n'y a pas d'allié objectif. Il y a des personnes. Voilà. Je l'attendais celle-là. Je ne sais pas qui sera le responsable. Non, je ne suis pas en marche. Hein. Du tout. Mais cette commission urbanisme était une commission où on pouvait discuter, où on avait des éléments d'information. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de toutes les commissions. Simplement, un point qui avait été abordé, c'était celui d'une concertation sur le règlement des séparations entre les terrasses des cafetiers, des restaurateurs, pour avoir une harmonisation qui serait en effet une bonne chose. Et simplement, j'avais attiré l'attention sur un point, c'est qu'on peut donner des contraintes au privé pour harmoniser, pour avoir quelque chose, surtout qu'avec les marées de terrasses qu'on a, ça ne serait pas du luxe. Mais il serait aussi utile que cela concerne les décisions de la collectivité. Et je me souviens notamment de restaurateurs à qui on imposait des conteneurs devant leur terrasse, alors qu'on leur avait demandé, pour des raisons de co-visibilité avec notamment l'église Sainte-Thérèse, de s'abstenir d'avoir leur propre séparation donc entre les terrasses. Donc il faudrait aussi que de notre côté, on soit à l'écoute de ce qu'ils attendent. Et enfin, une remarque, vous avez parlé, monsieur le maire, donc des expériences qui réussissent pour l'emplacement des conteneurs, pour la gestion donc des ordures ménagères, et notamment donc d'utiliser des cellules commerciales vides. Ça n'est pas ce qui manque à Metz, malheureusement. Et notamment, place Saint-Jacques, il y a un problème donc dans le champ visuel des consommateurs qui est vraiment énorme et qui c'est donc l'amoncellement de.
Et là, il n'y a pas
sacs.
De cellule vide, là.
Si, il y a la cellule orange qui est là depuis un certain temps, et un temps certain même. L'ancien magasin Agence Orange qui pourrait être utilisé. Il y a aussi, les anciennes toilettes publiques qui étaient en dessous d'une terrasse actuelle. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un problème qu'il est urgent de régler parce que cet amoncellement de sacs puants, comme certains d'ailleurs conteneurs qui sont en été... Qui sont vraiment mais incommodants. C'est un problème qui devrait être réglé. Nous voterons pour.
Merci madame. Qui a contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Unanimité. Je vous remercie.